tour de la question vous emmène sur la Lune.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour fêter comme il se doit le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Nous vous proposons de nous projeter à la fois dans ce passé sidéral, sur les traces des astronautes qui ont marché sur la Lune, mais aussi dans le futur sidérant de tous ceux qui rêvent et travaillent à y retourner. Pourquoi et comment ? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. Le planétologue Sylvestre Maurice, qui est en ligne avec nous depuis le Centre de Recherche Spatiale de la NASA en Californie. L'astronaute physicien Jean-Jacques Favier, sixième Français à être allé dans l'espace, qui travaille toujours sur la Lune depuis la Terre. Et notre confrère Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, qui vient de publier « Ils ont marché sur la Lune », le récit inédit des explorations Apollo. Et comme vous savez, fidèles auditeurs, que vous pouvez nous demander la Lune, il y aura aussi des cadeaux, revues et beaux livres qui vont vous tomber du ciel aujourd'hui. Autour de la question « Pourquoi retourner sur la Lune ?» Bienvenue sur Terre. Bonjour Sylvestre Maurice.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous malgré l'heure très matinale pour vous. Vous êtes à Pasadena en Californie, au centre JPL de recherche spatiale de la NASA pour régler ou faire les derniers tests sur la Supercam, la caméra laser, seul instrument de technologie française embarqué pour la prochaine mission Mars 2020 à la recherche de traces de vie sur Mars. Mais avant l'exploration de Mars, il y a eu la Lune. Vous avez Sylvestre Maurice en tant que planétologue, astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique physique et planétologie de Toulouse. Vous avez participé à de nombreuses missions d'exploration du système solaire, de l'Agence spatiale européenne et de la NASA. Vous avez notamment étudié la surface lunaire dans le cadre de la mission Lunar Prospector et puis contribué en 1998, excusez du peu, à la découverte de glace d'eau sur les pôles de la Lune. De quoi donner envie d'y retourner en cette année lunaire pour y chercher quoi sur la Lune ? Pour y faire de la science, Sylvestre Maurice ?
Bon, vous avez bien résumé ce qui s'est passé. Effectivement, on va y retourner pour faire de la science, mais pas que. On verra dans toutes les missions parler de politique, de technologie, de toutes ces thématiques. Mais la science est là. Ce n'est pas le moteur, il ne faut pas se tromper. La science n'est pas le moteur de l'exploration de la Lune. Je pense même, honnêtement, sur les missions Apollo, c'était un passager clandestin. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'ambitions qui étaient beaucoup politiques et peut-être qui étaient très techniques, voire sociétales, l'envie simplement d'y aller. Et puis la science s'est glissée. Et en se glissant sur la Lune, elle a fait d'extraordinaires découvertes. Des découvertes, vous savez, qui sont... C'est pas la thématique recherche de vie. Sur la Lune, c'est une autre thématique. Recherche de vie, c'est Mars. C'est la thématique origine. Finalement, quelles sont les origines des mondes ? Comment un monde se met en place ? C'est ça qu'on va rechercher sur la Lune. Et en faisant cette étude, on a pu trouver l'âge de la Terre. On a pu trouver comment la Terre et la Lune font un couple absolument extraordinaire. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. C'est vraiment une très très belle science, une science du bombardement. Vous savez, tous ces cailloux qui tombent du ciel, une science du volcanisme. On les connaît sur Terre, un petit peu sur la Lune. Une science des volatiles, on en a parlé, de ces comètes qui déposent de l'eau sur les planètes, et en particulier au pôle de la Lune, là où on a pu les trouver. Donc plein de bonnes sciences. C'est un peu, je dis souvent, la pierre de Rosette des planétologues. C'est le livre qui nous permet de comprendre l'histoire du système solaire. C'est assez merveilleux de faire de la science sur la Lune.
Faire de la science, de la bonne science sur la Lune, comme vous, Jean-Jacques Favier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne avec nous. Alors vous êtes astronaute et physicien. Vous avez été le seul astronaute scientifique du CNES embarqué à bord de la navette Columbia de la NASA. Vous avez passé 16 jours dans l'espace tout de même, à bord du Space Lab de l'Agence spatiale européenne. C'est en 1996 pour la mission STS-78. Aujourd'hui vous êtes professeur honoraire à l'école des mines d'Albi et professeur à SupAéro à Toulouse. Vous continuez de travailler sur la Lune mais depuis la Terre en soutenant de nombreux projets et start-up, j'ai envie de citer ISRU, In-Situ Resource Utilization, ou encore ARCHE, un projet collaboratif avec des architectes des milieux extrêmes pour pouvoir retourner sur la Lune et peut-être y construire une base de recherche scientifique. C'est ça, c'est un défi réalisable selon vous, Jacques Favier. Pour toi, c'est si important, scientifiquement parlant, de retourner sur la Lune ?
Oui, je pense que Sylvestre a bien expliqué, en fait, tout l'intérêt de mener des études scientifiques sur la Lune. Donc, pour pouvoir mener ces études, il nous faut certes avoir des instruments, accès à des instruments qui pourront se poser, qui sont déjà posés de façon automatique. Mais la présence de l'homme, et en particulier la présence de scientifiques aguerris, en fait, aux techniques et aux sciences de planétologie, de géologie, etc., est absolument fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la nouvelle vision de la continuation de l'exploration de la Lune s'inscrit dans le cadre à la fois de vols automatiques et de vols habités.
Il faut les deux.
Probablement que pour lors des missions Apollo, les astronautes ne sont restés que 48 heures, 72 heures au maximum pour la dernière mission Apollo 17. Et en fait, ils ont pu qu'ébaucher un certain travail à caractère scientifique sur la Lune. Il faut maintenant affiner tout ça et prendre en considération aussi toutes les découvertes qui ont pu être faites depuis les années 70 à nos jours en planétologie.
En planétologie et en technologie aussi.
Alors justement, pour pouvoir mener à bien ces études dans ces nouvelles conditions, il faut que les scientifiques et les astronautes, d'une manière plus générale, puissent vivre pendant de longues périodes sur la Lune sans revenir au bout de quelques jours. Et donc ça suppose de mettre en place des infrastructures de vie, comme dans une base scientifique, par exemple celle qu'on trouve en Antarctique, la base Concordia, qui en fait dispose de moyens techniques d'abord d'habitat, mais aussi de ressources en énergie, de ressources en éléments vitaux pour les hommes. Et ce sont toutes ces technologies que nous essayons de mettre au point de façon à rendre possible ces stages de longue durée sur la Lune.
Stages de longue durée sur la Lune, ça fait déjà rêver. Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous en studio pour nous demander pourquoi et comment retourner sur la Lune. Je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, l'auteur de nombreux ouvrages sur le spatial. Vous venez de publier, Philippe, un ouvrage qui devrait faire date parmi toutes les parutions de ce cinquantenaire, Ils ont marché sur la Lune, aux éditions Belin, le récit inédit des opérations Apollo par les astronautes eux-mêmes. Vous avez recueilli, recherché les témoignages exclusifs des derniers astronautes. C'est important de les entendre, de revenir sur cet exploit-là avant d'y retourner.
Oui, c'est important parce que c'est la seule expérience d'exploration planétaire par des humains que nous ayons. Les agences spatiales ont envoyé depuis la même époque, d'ailleurs que le programme Apollo, des sondes sur la Lune et sur d'autres planètes, sur Mars, même sur Vénus. Mais on s'aperçoit quand on compare que les humains qui sont allés sur la Lune, comme le disait Jean-Jacques Favier, ils y sont allés pour quelques poignées de dizaines d'heures. Et ils avaient un temps limité, donc ils devaient choisir rapidement, mais ils ont été malgré le fait que la plupart, sauf un, Harrison Schmitt, qui était dans la mission Apollo 17, qui était géologue, aucun d'eux n'était scientifique au départ, donc ils se sont formés à la géologie, donc c'était pas des spécialistes, mais ils se sont formés à une géologie particulière qui est celle d'arriver à un endroit, d'avoir 10 minutes pour jeter un coup d'œil, choisir la bonne pierre et repartir, parce que vous êtes contraint par les capacités que vous avez en oxygène. Alors malgré ces contraintes-là, malgré le fait que vous ne pourrez pas revenir à un endroit pour mener une étude complémentaire, ils ont été d'une efficacité incroyable. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres
avec le rover
sur les dernières missions. Ils ont cassé des choses, mais ils en ont réparé. Donc il y a une capacité d'adaptation énorme. Donc ça va très vite. L'exploration, quand il y a des humains, d'accord, c'est très coûteux, c'est dangereux, mais ça va beaucoup plus vite. Et c'est aussi une exploration, au passage, par procuration pour nous tous. On peut humaniser des robots comme on l'a fait avec Philae, par exemple, quand il s'est posé sur la comète Rosetta, et ça s'est vu dans les médias, on humanisait ce robot. Mais c'est encore mieux si c'est des humains qui, en plus, eux, peuvent photographier pour nous, raconter pour nous. Au fond, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire qui consiste à se raconter des histoires.
C'est ça, donc c'est les explorateurs qui reviennent
voilà,
raconter
leur exploration. Ils vont nous raconter au coin du feu, enfin, au coin du feu d'Internet aujourd'hui, mais ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu, ils vont nous dire comment ils voient la Terre de là-bas,
c'est ça,
parce que partir, c'est aussi revenir, c'est pas un aller simple, c'est un aller-retour, c'est aussi se dérégionaliser par rapport à notre propre planète,
se rendre compte
que la Lune, c'est ce qu'ont vu les astronautes d'Apollo, la Lune est un milieu parfaitement hostile. L'Antarctique, dont on parlait tout à l'heure, c'est une oasis à côté de ça. Parce qu'il y a de l'air pour respirer, parce qu'il y a de l'eau en abondance, même si elle est glacée. C'est le paradis sur Terre. La Lune, c'est beaucoup plus hostile. Vous avez des rayons cosmiques qui arrivent, vous avez des micro-météoristes qui peuvent percer votre scaphandre. La moindre faille, c'est comme quand on va dans l'espace, c'est fatal. Donc, quand on voit que le monde le plus proche, il est si hostile, et qu'on se dit, ben, sur Mars, c'est pas si différent, sur les autres planètes qu'on connaît, c'est comme ça. Ouais. On a un regard différent sur le nôtre de monde, qui est une véritable oasis, et dont on prend conscience à ce moment-là qu'il faut la préserver.
On va y revenir, hein, parce que c'est vraiment ce qui ressort des témoignages de tous les astronautes que vous avez croisés et rencontrés. Moi, j'ai envie de dire qu'il est important aussi de célébrer cet anniversaire, parce que sur les réseaux sociaux, quelques-uns de nos auditeurs nous ont demandé, mais est-ce que ça a vraiment eu lieu, ça, sur la Lune? Est-ce qu'on nous a pas raconté des histoires? Alors, oui, ça a bien eu lieu il y a 50 ans. Hein,
oui, alors il y a des gens qui ont douté de ça dès 1969. À l'époque, on peut le comprendre, il y a des gens qui sont nés en 1900 ou avant, qui ont vécu une telle évolution que pour eux c'était difficile d'admettre ce saut. Aujourd'hui, ça continue. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire. C'est-à-dire que toutes les argumentations qu'on pourrait avoir, on pourrait consacrer une émission entière, je pourrais vous démonter point par point tous les points qui soi-disant posent problème, qui démontreraient que ça a été fait en studio, etc. Il n'y en a aucun qui marche. Il n'y en a aucun qui tient leur route. On peut les prendre un par un. Mais ça prendrait du temps et encore une fois, ça ne convaincrait pas forcément ceux qui les promeuvent. Par contre, tous ceux qui sont indécis, qui se disent, tiens, qui ont le doute salvateur finalement, c'est normal d'avoir le doute, qui ne savent pas, je leur dirais juste une chose. Les Russes, les Soviétiques à l'époque, c'était une course, les Américains contre les Russes. Et croyez-moi, si les Américains avaient fait une fake news, les premiers à le dire, ça aurait été les Russes, quand même. Et il n'y a aucun secret d'État qui a duré aussi longtemps en plus.
Autour de la question pourquoi retourner sur la Lune, question ouverte à partager ensemble pour fêter donc le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, et avec des cadeaux en plus. Nous avons des revues Ciel et Espace notamment et des beaux livres à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, nous en profitons aussi pour saluer notre lauréat de la lunette astronomique, Christian Baba à Lomé au Togo. Hello Christian, qui continue à partager sa lunette pour faire observer la Lune à tous, petits et grands, dans les rues de Lomé. Il a même hier projeté aux enfants un orphelinat des environs de la capitale, le documentaire Apollo 11. Belle initiative en cette année lunaire qui se fête aussi évidemment à Toulouse, à la Cité de l'Espace, avec l'épisode 2 d'une superbe exposition Lune et un spécial Apollo Day ce dimanche à Toulouse. Apollo Day, c'est tout de suite sur RFI avec le mix Je me souviens, signé Hugo Violas.
Demain, nous, l'équipage d'Apollo 11, aurons le privilège de représenter les États-Unis lors de notre première tentative d'envoyer l'homme sur un autre corps céleste.
Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go.
Capcom, we're go for undocking.
Tranquility Base here.
Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT. L'alunissage en douceur a parfaitement réussi.
Allô Neil, allô Buzz. Je vous parle depuis la salle ovale de la Maison Blanche et c'est sans aucun doute le coup de téléphone le plus historique qui ait jamais été donné.
Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici, de représenter non seulement le peuple américain, mais les hommes pacifiques de toutes les nations.
«
Inspirant et étonnant coup de téléphone, inspirant message envoyé depuis la Lune, donc le 21 juillet 69, par Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers astronautes à avoir marché sur la Lune. Ils n'ont pas été les seuls, c'est ce qu'on découvre entre autres dans votre ouvrage, Philippe Hénarejos. Ils sont 12 astronautes à avoir foulé le sol lunaire. Chaque témoignage que vous avez recueilli auprès de ces pionniers de l'épopée Apollo va un peu dans le même sens. C'est celui d'une grande aventure humaine, scientifique, voire écologique. Alors qu'on l'a dit aussi, la conquête spatiale en pleine guerre froide avait au départ d'autres buts, on va dire moins humanistes et plus géopolitiques.
Et oui, c'est la surprise de cette mission Apollo, de ce programme Apollo. Et ça commence avec la mission Apollo 8 en décembre 1968, où pour la première fois, trois hommes font le tour de la Lune. Et au cours de la quatrième orbite, leur vaisseau est orienté de telle manière que, quand ils reviennent de la face cachée, ils voient la Terre se lever sur l'horizon lunaire. Et ils n'avaient pas pensé qu'ils pourraient voir ça. À la NASA, personne ne leur avait donné les temps d'exposition pour les appareils photo. Vous savez, c'était l'argentique à l'époque, pour photographier la Terre. Tout était focalisé sur la Lune. Et là, surprise, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient apparaître cette planète bleue, la seule tache de couleur dans le noir absolu de l'espace, avec en contraste au premier plan, le sol désespérément gris. Et d'ailleurs, ils nous le racontent, ils nous disent que ça ressemble à du plâtre de Paris.
Ils étaient déçus par la Lune.
C'est des trous dans des trous, c'est gris, c'est moche, en gros.
En fait, c'est la Terre qui
Et voilà, et tout d'un coup, la beauté de la Terre vient comme un rayon les frapper, alors que ce sont des militaires, ils ne sont pas des poètes, ils ne sont pas capables de nous vendre la Lune à ce moment-là.
C'est pas éluard, la Terre est bleue comme l'orange, mais pourtant c'est bien ça.
Exactement, et la grande leçon finalement qu'on retient d'Apollo 8, c'est la découverte de la Terre depuis la Lune, et eux-mêmes le disent.
Et vous citez d'ailleurs, et on va y revenir, un interview qu'avait accordé Neil Armstrong avant même d'embarquer, c'était pour le magazine Life, je crois.
C'est le magazine Life, lui avait demandé d'écrire un texte dans lequel il dirait ce que signifiait pour lui le fait d'aller sur la Lune. C'était en juin 69, un mois avant qu'il parte pour cette mission. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent c'est un accomplissement énorme, c'est quelque chose, enfin je sais pas, quelque chose d'assez personnel. Et finalement, Armstrong, qui n'avait pas un ego très développé, mais qui avait une belle vision qui était capable d'analyser vraiment ce qui se passait. En juin 69, il écrit un texte dans lequel il dit depuis la Lune, il y a un truc qu'on ne voit pas vraiment, mais qui est là, c'est l'épaisseur de l'atmosphère de la Terre. Et il dit, quand on se rend compte combien cette épaisseur est fine finalement, combien cette couche protectrice qui nous permet de vivre est fragile, eh bien alors on se dit, en revenant de ce monde hostile, on se dit, eh bien il faut la préserver, elle ne pourra pas absorber tout ce qu'on fait, il faut vraiment faire attention.
Il écrit ça,
Neil Armstrong, un mois avant de partir sur
la Lune. Alors je propose justement d'écouter Neil Armstrong à son retour de la Lune, puisqu'on a parlé quand même de ce premier pas sur la Lune comme la naissance peut-être de la conscience écologique. C'est un extrait du documentaire « À la conquête de la Lune » diffusé ce soir et demain sur la chaîne Arte, quand Neil Armstrong, donc le premier homme sur la Lune, revenait en parlant déjà d'écologie.
Je me sentais tout petit et privilégié. Et quand on a levé les yeux depuis la Lune, au-dessus de nous, on a vu la Terre. Elle était toute petite, mais magnifique. On aurait dit une oasis dans l'espace. À ce moment-là, on s'est dit qu'il était essentiel pour nous et pour toute l'humanité de préserver cette planète pour profiter tous ensemble de cette belle oasis encore longtemps.
Notre oasis terrestre, il était visionnaire.
Non, mais c'est incroyable parce que c'est en 1969 et franchement, il y avait déjà des gens qui étaient alertés sur la possible dérive vers un réchauffement climatique, sur les activités humaines, sur l'impact que ça allait avoir sur le climat. Il y avait déjà des gens qui étaient alertés là-dessus, mais ils n'étaient quand même pas majoritaires. Et Armstrong, parmi eux, il est l'un d'eux et il alerte déjà.
Et en même temps, on se dit, nous, à l'époque, moi j'étais né. Les 450 millions de terriens qui avons suivi en direct cet événement, on n'en a peut-être pas fait grand-chose. Jean-Jacques Favier, vous qui avez été dans l'espace, est-ce que vous aussi, ça a éveillé aussi une forme de conscience écologique ou est-ce que c'est aussi la Terre que vous avez vue de là-haut ?
Oui, bien sûr. C'est en fait la réflexion que fait tout astronaute qui a volé depuis donc l'époque Apollo en orbite beaucoup plus basse, bien sûr, 400, 500, 600 km au maximum de la Terre. La vision que l'on a depuis le hublot est quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, on ne voit pas comme les astronautes d'Apollo ont pu le faire la plénitude de la planète, puisqu'on n'en voit qu'une portion, on n'est pas assez éloigné de la Terre pour la voir dans son entièreté, mais les couleurs sont là et l'atmosphère est tout à fait visible et on a forcément tous en tête la réflexion que Neil Armstrong a pu faire l'un des premiers, c'est-à-dire la fragilité de cette atmosphère. Quand on se rend compte, quand on réfléchit, et que c'est grâce en fait à cette atmosphère que la vie est possible sur Terre, la vie telle qu'on la connaît. Alors, c'est vrai que, bon, comme beaucoup de mes collègues, j'ai eu une sensibilité écologique assez jeune, mais je crois qu'elle s'est vraiment confirmée à la vision, par mes propres yeux, si vous voulez, de l'environnement terrestre.
Je ne sais pas si vous souhaitez que tout le monde puisse aller sur la Lune, on y reviendra, hein, parce que la question du tourisme spatial, elle est quand même dans l'air un peu aussi aujourd'hui. Sylvestre Maurice, de toutes ces missions Apollo, de tous ces astronautes qui ont été sur la Lune, qu'est-ce que vous en retenez, hein, évidemment, au-delà de cette conscience écologique qui est née de là, qu'est-ce que vous en retenez, la prouesse technologique, les outils fabriqués qui nous servent aujourd'hui sur Terre, qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors évidemment énormément de choses. D'abord de la science, on l'a évoqué. C'est quand même l'histoire de la Terre. Hein. La Lune est un morceau de la Terre, ne l'oubliez jamais. Et ça a changé ma relation à la Lune en quelque sorte.
Ah, oui.
Ce qui a été dit sur la conscience écologique est quand même important. Alors c'est celle des astronautes qui est remarquable. C'est celle du planétologue que nous sommes.
Oui.
On a commencé par la Lune. Et puis on est allé vers Mars, et j'adore un désert sur Mars. Ou bien j'adore un volcan sur Io autour de Jupiter, ou un océan de glace autour de Saturne, un océan sous la glace autour de Saturne. Et partout on est allé dans le système solaire, on s'est dit, il y a quand même un endroit qui est différent des autres, c'est la Terre. Il a fallu prendre du recul, ce qu'on appelle prendre du recul, la perspective, si vous voulez. Et à chaque fois qu'on disait ça, on disait, c'est pas que la Terre, c'est la Terre et la Lune ensemble. Dans tout le système solaire, il n'y a pas d'autre exemple. Enfin, s'il y en a un, à vrai dire, il y en a un.
Une planète et de son satellite, oui.
Un couple, oui, qui ont des tailles comparables. Évidemment, il y a 60 satellites autour de Jupiter, Saturne, etc. Donc, on a l'habitude d'avoir des satellites, mais deux tailles comparables. Eh bien, écoutez, on trouve ça sur Pluton. Pluton a un compagnon et qui est à peu près de taille semblable dans son rapport par rapport à la Terre et la Lune. Et donc, on appelle ça le couple Terre-Lune. Nous l'oublions jamais. Vu de l'extérieur, on parle toujours de ce couple. Et donc, on a appris cette association de naissance. Un jour, un corps vient frapper la proto-Terre, c'est-à-dire une Terre assez jeune. Et ce corps s'appelle Theia. Il a probablement la taille de Mars. Il a un impact assez tangentiel qui va arracher un morceau de la Terre, surtout la croûte, tout ça va se mélanger très très vite. On va parler en milliers d'années, dizaines de milliers d'années, mais c'est très rapide pour nous. Eh bien, on va former la Lune de ces morceaux, et puis la Terre va se reformer. Ça se passe une cinquantaine de millions d'années après la naissance de la Terre, il y a 4,56 milliards d'années. Vous voyez, une naissance absolument incroyable qui met en place deux corps qui se tiennent. Et alors, ils vont avoir des influences. Vous savez que la Lune crée les marées terrestres. On voit bien les océans qui bougent. Eh bien, vous savez que la Terre va créer des marées lunaires. On a des tremblements de Lune. On a mis des sismomètres. Nos amis astronautes ont mis des sismomètres. On a très, très bien vu les tremblements de Lune. Et toute cette énergie dépensée entre les tremblements de Lune ou bien les océans ou les marées sur Terre, eh bien, va avoir un effet extraordinaire. C'est que la Lune s'éloigne. La Lune s'éloigne tous les ans de quelques centimètres. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais si vous intégrez depuis plusieurs milliards d'années, eh bien, elle a incroyablement reculé. Alors, elle s'éloigne de nous. Ça, c'est pas trop gênant. Mais il y a aussi un effet incroyable. C'est que cette énergie, elle le trouve aussi dans la rotation de la Terre. Et donc, la Lune, en s'éloignant, ralentit la Terre. Aujourd'hui, nous tournons sur nous-mêmes en 24 heures. Sachez que dans 200 millions d'années, alors je ne suis pas sûr qu'on soit là pour en parler, il faudra qu'on préserve notre Terre, évidemment, on tournera en 25 heures.
À cause de la Lune.
En ce moment, à cause de la Lune. Mais dans le passé, ça veut dire que quoi ? Il y a 200 millions d'années, on tournait en 23 heures, etc. Alors, ce n'est pas complètement linéaire, ça change un peu. Mais on pense qu'après l'impact de Théia avec la Terre, la Terre tournait alors en 6h30. Voilà, on est en 6h30, donc le jour n'est pas très long, la nuit n'est pas très longue.
Et tout ça en lien avec la Lune.
Cette Lune. C'est pas un odeur.
À quel point elle nous influence.
Alors, elle nous stabilise, ça c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on connaît des planètes qui sont carrément retournées sur leur orbite, hein, comme Vénus, hein. Et puis ça a tué tout ce qui existait. On pourrait même dire, on est en train d'analyser ça, je pense que si la Lune n'était pas là, eh bien nous ne serions pas là aujourd'hui sur votre belle radio pour en parler.
Magnifique, ce couple Terre-Lune, pas l'un sans l'autre. Pourquoi y retourner sur la Lune ? C'est autour de cette question qu'on tourne aujourd'hui avec Apollo 21 maintenant. C'est Florent Marchais qui nous embarque sur RFI.
Juin 2045. Première journée de transit. On est encore sous le choc. Mélange de tristesse et de soulagement. On évite de regarder le paysage. Sauf les enfants qui, à travers le hublot, découvrent leur avenir. Marie n'a jamais faim. Je cherche l'odeur de notre maison en reniflant les vêtements de la valise. On est tous très silencieux. On pense à nos amis, à ceux qui sont restés, ceux qui attendent leur tour. 3 juillet 2045. Réveillé à 4h20, je cherche un truc à manger. Plus rien de correct, pas même du bœuf séché ou une connerie sucrée. Impossible de trouver le sommeil. Il y a la respiration régulière de Marie, son corps endormi. J'aime ça. J'ai de la chance de l'avoir. Que ferais-je sans elle, sans les enfants ? Je dois croire en nous. Je traîne près du Virgin Galactic Coffee et je regarde par le hublot. Maintenant, on ne distingue plus notre planète bleue. Tous les mardis, nous étions les responsables du potager. J'aime bien, ça me vide la tête. Marie s'occupe des laitues, des tomates, des carottes, tout ce qui peut pousser en hauteur et dans la flotte. Ça fait plusieurs jours qu'elle s'est murée dans le silence. Avec les enfants, on nourrit les poissons, ce qui est une occupation comme une autre. Mon fils me dit qu'il voudrait retourner à la pêche, dans Berry, quand l'école lui manque. Chaque mois de lui est un canif planté dans le ventre. Dans 6 mois, nous devrions rejoindre la première station en orbite. Et ma fille fêtera ses 2 ans. Hier, elle a fait ses premiers pas.
Science ou science-fiction, Apollo 21, Florent Marchais sur RFI. Autour de la question, pourquoi retourner sur la Lune ? Nous célébrons le cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune en compagnie de Philippe Hénarejos, qui vient de publier une formidable enquête « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin. Nous sommes également en direct depuis les laboratoires de la NASA à Pasadena en Californie avec le planétologue Sylvestre Maurice, un des découvreurs de l'eau sur la Lune et l'un des explorateurs par caméra interposée du sol martien, et avec l'astronaute et physicien Jean-Jacques Favier. Alors Jean-Jacques Favier, vous n'avez pas encore marché sur la Lune, hein, pas encore, on ne sait jamais, je crois que ça vous tenterait. Mais vous êtes à ce jour le seul astronaute scientifique français à avoir été embarqué à bord de la navette Columbia. Vous êtes resté 16 jours en orbite dans le module Space Lab de l'Agence spatiale européenne, hébergé dans la soute de la navette Columbia, pour y mener vos expériences scientifiques réalisables seulement en impesanteur. Une sacrée expérience que je vous propose de revivre d'abord avec les oreilles. Extrait de la vidéo tournée juste avant le décollage de la mission STS-78 le 20 juin 1996 depuis le centre spatial de la NASA en Floride. Présentation des astronautes dont vous-même, Jean-Jacques Favier.
Here we are suiting up at the Kennedy Space Center for our launch on June 20th. Again, Kevin Kriegel, the pilot, waving to his family. Jean-Jacques Favier from France, very eager to get into space. Susan Helms, all pressure checked, ready to begin her third space flight. And the alien here is Dr. Rick Lenihan, our veterinarian. And Dr. Chuck Brady, also eager to get into space for his first time. And from Canada, Dr. Bob Thirsk.
And these wonderful views you have of the strapping in procedure are courtesy of a mini portable camcorder.
Check.
Jean-Jacques Favier, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, à ce moment-là, quand ça décolle?
Eh bien, ce sont des sentiments en fait qui se bousculent. Pas facilement contrôlable d'ailleurs, puisque d'un côté, on a attendu, enfin dans mon cas, 11 ans avant d'en arriver là, entre la première sélection et puis le décollage de la fusée. Et d'un autre côté, en fait, une certaine appréhension. On sait qu'il y a déjà eu des accidents avec la navette spatiale en particulier, Challenger en 86. Mais quand on est, en fait, sur le pont de la navette, on est obligé de faire confiance aux hommes et au système. Et on n'a plus peur. Je me suis fait peur à plusieurs reprises à l'entraînement, en particulier lorsque l'on nous faisait simuler en fait donc des scénarios catastrophes comme celui de Challenger. Et malgré les modifications que la NASA a apportées à la navette, je me rendais bien compte que s'il y avait le même problème, on ne pourrait pas s'en sortir. Mais le jour du départ, l'esprit est ailleurs. On est concentré sur ce que l'on doit faire. Excusez-moi, à bord pendant la phase de décollage. La NASA, en fait, d'un point de vue, je dirais, psychologique aussi, est vraiment très au point. Elle nous fait répéter pendant les quelques dizaines de minutes avant le vol un certain nombre d'opérations, s'assurer que tel voyant est bien allumé, que telle suite est bien sur la bonne position, alors que le centre de contrôle a la télémesure en permanence. Donc ils le savent, c'est simplement pour nous occuper de façon qu'on n'ait pas à penser à autre chose qu'à la mission.
Et oui, c'est fondamental, d'autant que vous, ce qui est quand même particulier, Jean-Jacques Favier, on ne le dit pas assez, vous êtes un astronaute physicien assez discret, c'est que vous êtes un scientifique au départ, vous n'êtes pas un pilote, contrairement à la plupart des astronautes qui sont partis dans l'espace. Vous êtes un scientifique, hein, à l'origine, un physicien.
C'est vrai, c'est ce qui m'a motivé, si vous voulez, pour ces missions-là. J'ai commencé à aborder le monde du spatial à travers la science et la recherche. J'ai fait ma carrière essentiellement dans des laboratoires de recherche en France et aux États-Unis. Et j'ai préparé de multiples expériences que je remettais à la dernière minute, si vous voulez, à des astronautes qui n'étaient pas scientifiques et qui s'intéressaient plus ou moins, si vous voulez, aux objectifs scientifiques des missions. Ils voulaient que les expériences soient les plus simples possibles. Donc j'étais assez frustré de confier en fait mes expériences à d'autres. Et lorsque les agences spatiales, la NASA d'abord, puis le CNES, l'agence française, et l'ESA ont ouvert le spectre des profils pour les sélections, aux ingénieurs et aux scientifiques, je me suis présenté, j'ai eu la chance d'être sélectionné.
Pourquoi Sylvestre Maurice est si important que des scientifiques, des chercheurs deviennent astronautes comme Jean-Jacques Favier? Pourquoi c'est si important de mener des tas d'expériences différentes d'ailleurs dans l'espace?
Ah, c'est pas une question très facile, parce qu'il faut reconnaître qu'on a des astronautes, puis sont-ils plutôt des pilotes ou font quand même bien le boulot.
Oui,
On leur donne de la science.
Vive Thomas Pesquet, on est d'accord.
Par exemple, il a déroulé très très bien des expériences. Mais Jean-Jacques l'a dit, il y a ce petit surplus, cette petite innovation qu'il est capable de faire à la dernière minute, cette petite inventivité, ce regard critique. On l'a vu par exemple sur la Lune, et Philippe l'a dit tout à l'heure, de tous les astronautes qui ont marché, le dernier, enfin l'avant-dernier a posé le pied, mais de la dernière mission, Jacques Schmitt, et nous on le rencontre dans nos colloques scientifiques, le colloque qui a lieu sur la Lune depuis 50 ans, qui est à Houston au mois de mars, et à chaque fois on le voit. Il nous présente ses résultats, c'est le géologue...
Ah, il continue de produire des résultats,
ah,
hein,
oui,
c'est ça, hein.
Oui, il est étonnant. Alors, je suis pas sûr qu'il soit complètement au top de la science, mais c'est pas grave. On le regarde avec une telle affection, une telle admiration, parce qu'il a marché dessus. Et on regarde dans tous les échantillons qui ont été rapportés. Alors, c'est vrai qu'il y a des astronautes qui s'en moquaient un petit peu. Ils ont pris le caillou qui leur tombait sous la main, ou sous le pied. C'était déjà pas facile. Et lui, alors, il a la chance d'avoir un site d'atterrissage absolument extraordinaire qu'on a raffiné avec le temps. Hein, c'est Apollo 17. Donc,
on a choisi le lieu.
Mais il a fait les échantillons de Jack, restent les échantillons qui ont la plus grande portée scientifique, parce qu'il a su les choisir. Il a par exemple des verres, qu'on appelle des morceaux de verre, hein, orangés, pyroclastiques, qui sont absolument superbes, et plein de choses comme ça, qui font que, on a remarqué que ce regard de géologue,
est le seul à encore augmenter le retour scientifique qu'on a fait. Donc ça, c'est un très bon exemple du scientifique, comme Jean-Jacques, en condition. Sur place, même si tous les astronautes et Thomas, par exemple, parlons de Thomas Pesquet, a fait un boulot absolument extraordinaire sur un nombre d'expériences et alors lui, statistiquement, il bat tout le monde en qualité, en puissance de ce qu'il a pu faire. Mais de temps en temps, il nous faut aussi des spécialistes dans la même mission que Jean-Jacques, il y avait un vétérinaire, on l'a entendu, etc. Ces gens qui ont, qui ont cette science rivée et peuvent qui apportent... réagir aux paramètres, sortir peut-être un peu du protocole, et c'est ça, hein, le chercheur, il doit sortir de quelque chose d'écrit. Hein, c'est
dans son ADN. Connaît tout le protocole, mais arriver à faire autrement, Philippe Hénarejos.
Oui, sur Jack Smith, j'ajoute que pendant qu'il était à bord du rover qui le menait d'un endroit à un autre, il élaborait à voix haute déjà des premières hypothèses. Il parlait avec Houston, où il y avait au centre de contrôle d'autres géologues, pour que déjà ça cogite sur l'interprétation. Et donc, même sur place, en fait, il était déjà en train d'élaborer presque son papier scientifique. Alors après, il fallait le voir après avec les résultats du labo, mais sur place, il avait cette capacité de voir et d'improviser et de changer éventuellement l'objectif.
Et oui, c'est ça, quand il y a un homme, des hommes et des chercheurs sur la Lune. Alors vous aviez droit, Jean-Jacques Favier, quand vous étiez dans l'espace, vous aviez droit dans votre petit espace, hein, vous étiez sept dans une petite navette, vous avez droit chacun à votre musique préférée envoyée depuis la NASA dans l'espace pour vous réveiller en douceur, j'imagine, et en impesanteur. Alors vous ne le saviez pas, mais c'est ce morceau-là, conseillé par vos proches, que vous a passé la NASA entre les deux oreilles dans le module Space Lab.
Étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre. Il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu.
Francis Cabrel sur RFI, les murs de poussière, c'est évidemment pour vous, Jean-Jacques Favier. Vous aussi, vous vouliez trouver mieux quand vous étiez dans l'espace et quand la NASA depuis Houston vous a balancé ça dans les oreilles.
Oui, alors pas uniquement dans mes oreilles, donc sur les haut-parleurs donc du cockpit de la navette. Donc l'ensemble de l'équipage en a profité, peu ne comprenaient le français, à part mon ami Bob Surf qui est canadien, et il a fallu que je leur explique, que je leur raconte en fait l'histoire de la
chanson. Ben oui, parce que ça tombe pas mal cette chanson-là. Hein.
Tout à fait, donc je dois ce choix à mes enfants qui l'avaient fait, bien sûr, sans m'en avertir, c'est une surprise quand on est là-haut, et tous les matins, une chanson pour le réveil de l'équipage est dédiée à l'un des astronautes. Et c'est un choix qui a été fait personnellement par des proches. J'ai toujours bien aimé les chansons de Francis Cabrel, mais celle-ci en particulier, c'est vraiment beaucoup d'émotion.
Ah oui, certainement, on se doute de ça. Aujourd'hui, Jean-Jacques Favier, vous travaillez sur de nombreux projets de start-up. Alors pour retourner autour de la question pourquoi retourner sur la Lune, la question elle se pose surtout sur le comment y retourner, comment s'y installer. Vous travaillez notamment avec une start-up qui s'appelle ISRU, c'est ça, In Situ Resource Utilization, parce qu'une des questions qui se pose, c'est comment, si on veut établir une base sur la Lune, c'est comment y vivre, comment y rester, comment y passer plus de quelques jours ou quelques heures.
Tout à fait. Donc, comme on le disait au tout début de votre mission, les missions lors du retour sur la Lune sont des missions longues, certainement plusieurs mois, certainement 6 mois. C'est l'échéance de temps qui est sur laquelle on travaille aujourd'hui. Et bien sûr, il n'y aura pas un cargo tous les lundis matins qui fournira aux équipages sur la Lune tout ce dont ils ont besoin. Donc il faut essayer de voir comment trouver sur place ou exploiter le mieux possible les quelques ressources que l'on a sur la Lune, qui sont, d'après la description que vous en faisiez tout à l'heure, à travers les mots des astronautes, une magnifique désolation, c'est-à-dire essentiellement du sable qu'on appelle du régolithe, qui a une composition assez voisine du sable que l'on trouve sur la Terre, mais qui contient un certain nombre d'éléments chimiques tout à fait intéressants. D'abord, il s'agit d'oxyde, donc il y a beaucoup d'oxygène, et l'oxygène est indispensable, bien sûr, pour que les astronautes puissent vivre dans de bonnes conditions. Il y a aussi des métaux, des alliages, du silicium, dont on pourrait se servir pour créer en fait des infrastructures, des habitats d'une part, mais aussi des outils, des objets utiles à la recherche, fabriqués sur place par les nouvelles technologies.
Ah, en 3D, des imprimantes 3D.
Des imprimantes 3D, etc. Donc il faut apprendre en fait à maîtriser le régolithe, donc ce sable lunaire, pour en faire des choses tout à fait utiles. Et donc on travaille à l'heure actuelle sur justement l'impression 3D de sable de régolithe, ce qui n'est pas évident, mais c'est certainement une voie très très intéressante pour l'avenir.
Est-ce que sur place, Sylvestre Maurice, il s'agit de quoi ? D'établir, on parle de village lunaire, une base lunaire, pourquoi ? Pour que ce soit un tremplin pour aller plus loin, pour observer depuis la Lune ce qui se passe ailleurs, pour étudier la Lune elle-même, c'est quoi les plus grandes questions ? Qu'est-ce qui pousserait le plus à installer une base sur la Lune ?
Vous avez posé la question et répondu en même temps. C'est un peu tout ça. Ce que ça n'est pas, on va toujours dire ce que ça n'est pas, aller sur la Lune, ce n'est pas chercher des ressources pour la Terre. Il n'y a rien, c'est une planète, on sait comment fonctionne une planète, vous savez, tous ces oxydes, on peut leur donner des noms sur la Lune, c'est des plagioclases, des ilménites, et puis aussi des plagioclases, et puis plein de choses. Des planétoxènes, il y en a plein, on les a sur Terre. Donc, on ne va déjà rien chercher sur la Lune, qu'on n'est pas sur Terre, première chose. Donc, ce n'est pas des ressources. C'est des ressources, comme le dit Jean-Jacques, pour, sur place, survivre, pour être capable de rentrer en autonomie. Donc, on ne va pas chercher quelque chose pour la Terre. Et ce que ce n'est pas d'autre, c'est que ce n'est pas l'avenir de la Terre. On s'arrête tout de suite. Dans les années 60, 70, on disait, bon, on va aller sur la Lune, et puis après, on ira sur Mars, et comme ça, on habitera là-bas, on va développer une deuxième civilisation, et puis... S'il arrive quelque chose sur la Terre, ce n'est pas très grave, on va se faire une Terre 2.0 quelque part. Donc, la Lune n'est pas l'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme, c'est la Terre. Ça c'est la chose à
dire. Absolument.
Ni en ressources, ni pour y habiter sur place. Ceci dit, on a cette exploration techno-scientifique, avec pas mal de politique, il faut bien dire, qui s'est passé et qui va se repasser. La Lune, c'est aussi l'objet le plus proche, on y va en 3 jours. Philippe l'a dit tout au début, c'est l'espace. Vous êtes sur une surface, mais c'est exactement comme si vous étiez dans l'espace, une navette, dans l'ISS, et il y a tous les problèmes de l'ultra-vide, des rayonnements cosmiques, ultraviolets, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer du spectre, les micrométéorites. Donc, c'est le meilleur endroit où on peut apprendre à vivre en autonomie, et toutes les affaires issues de Jean-Jacques, avant de peut-être partir ailleurs. Donc, c'est l'avant-poste de l'homme dans l'espace. Pendant longtemps, il a été la station spatiale, qui a toujours sa raison d'être, qui va continuer. Intellectuellement, posons cette station spatiale sur la Lune, et ben vous aurez votre base, celle que vous cherchez. On ne va pas faire exactement ça, on va mettre une nouvelle station spatiale en orbite près de la Lune, et puis on aura une station. Et donc c'est l'avant-poste. L'avant-poste, je pense personnellement, du génie humain, de cette capacité qui nous pousse toujours à explorer, et puis peut-être un jour nous permettra d'aller vers des objectifs qui sont encore plus compliqués technologiquement parlant, c'est vers les astéroïdes. Et puis l'objectif qui nous intéresse tous, c'est aussi d'aller vers Mars. Et pour ça, il faut réapprendre toutes les technologies, un savoir-faire qu'on n'a pas complètement perdu, mais On a peut-être perdu le ressort, la motivation, la dynamique depuis les missions Apollo. Donc, le refaire et puis un jour aller vers Mars, aller vers d'autres horizons. Pour ça, ben voilà, on passe par la Lune.
On passe par la Lune, on a perdu, nous dit Sylvestre Maurice, peut-être finalement pourquoi on met tant de temps à y retourner sur la Lune, Philippe Hénarejos, d'autant qu'autour de nous, là on parle des Américains, on parle, enfin Apollo c'est les Américains, il y a eu des tentatives de collaboration internationale, mais on sait que les Chinois par exemple, ils pensent très très sérieusement, ils sont en train de monter un vrai programme sérieux hein, pour retourner sur la Lune.
Il y a les Chinois aussi, les Chinois aimeraient participer à un programme de collaboration internationale, ils ne s'en cachent pas, simplement ils sont bloqués par les Américains.
C'est les Américains qui bloquent.
Hein. Qu'il y ait de transfert de technologie américaine vers les Chinois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Chinois à bord de l'ISS et c'est pour ça que la Chine développe sa propre station spatiale et développe son propre programme lunaire.
Alors
peut-être qu'un jour ça va changer, mais pour l'instant c'est comme ça.
Mais alors qu'on se dit que la seule logique là-dedans, ça serait qu'on s'y mette tous ensemble, hein, qu'on
absolument,
arrête cette histoire
absolument.
De conquête.
C'est l'idée qui a été développée par l'actuel directeur général de l'Agence spatiale européenne, Jan Werner, qui a parlé du concept de village lunaire où tout le monde apporterait un peu sa maison ou son expérience. Y compris les Chinois, où ça, peut-être ça permettrait aux Chinois d'avoir leur petite maison dans le village sans braver l'interdit américain.
C'est ça aujourd'hui, ce sont
c'est
les Américains et Trump plus que jamais, on va le dire comme ça.
Trump, oui, mais Obama déjà avant lui. Vraiment, il n'y a pas eu de changement radical avec l'arrivée de Trump, c'était déjà le cas avant Trump.
Comment faire alors, puisqu'on comprend bien qu'on va retourner sur la Lune et que c'est un avant-poste indispensable et qu'en plus en chemin, toutes les technologies développées, on ne l'a pas dit, mais nous reviennent évidemment sur Terre, hein, pas les ressources, mais les technologies développées et la conscience écologique, ce qui n'est pas rien. Mais comment faire pour relier un peu tout ça? On entend Jacques Favier, on entend Sylvestre Maurice depuis la Californie, on vous entend Philippe, on écoute toutes ces collaborations qui sont parfois magnifiques entre astronautes, enfin même très souvent magnifique.
Je crois qu'il faut arriver à enchanter ce projet parce que finalement, c'est un projet assez positif. On peut se dire comme ça ici-bas que finalement, on s'en fiche un peu, ça sert à quoi d'aller là-bas, c'est loin de nos préoccupations, tout ça. Mais c'est pas exactement le cas. L'être humain a besoin de connaissances, d'accroître sa connaissance. Et l'accroissement des connaissances fait évoluer son cadre de vie. Et c'est enthousiasmant, c'est beau. C'est plutôt que faire une guerre, c'est quand même mieux de s'allier pour aller découvrir les secrets des roches lunaires et du système solaire. C'est quand même enthousiasmant. Pourquoi on ne s'enthousiasme pas là-dessus? Il y a peut-être un travail d'éducation à faire.
En tout cas, rien qu'en vous écoutant tous les trois, franchement, il y a de quoi être enthousiasmé. Merci infiniment d'avoir partagé toutes ces expériences spatiales et lunaires avec nous. Merci Sylvestre Maurice. On vous souhaite une belle journée à la NASA en Californie. J'espère que tout va bien du côté de la Supercam et des derniers tests avant mars 2020.
Tout va bien pour l'instant, mais on teste. Il nous faut encore un an de test avant de décoller. Un an de décollage.
On vous laisse tester, vous revenez avant ou après le décollage. Merci Jean-Jacques Favier d'avoir partagé avec nous vos missions scientifiques en impesanteur et vos recherches pour une base lunaire. Merci Philippe Hénarejos d'avoir été en direct. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Ils ont marché sur la Lune, document et interview inédit des astronautes des explorations Apollo. Je peux citer aussi le numéro spécial de Ciel et Espace consacré à la Lune.
En fait.
Absolument. Et également de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de la conquête spatiale, notamment celui de l'astronaute Jean-François Clairvoy, paru chez De Bock, et du journaliste Serge Brunier, La conquête spatiale de A à Z, ouvrage et revue dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditeurs et internautes, il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook, et je vous signale enfin que nous continuons nous aussi à fêter la Lune sur RFI, avec demain une matinale spéciale Lune sur la Radio Mondiale, qu'on se le dise. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur Terre. Merci à Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses de cette émission lunaire.